OK, c'est parti. Alors, on va commencer. Oups, on a un autre. Virginie arrive. Allez, bon, Virginie.
Hare Krishna,
Krishna. Allez, bon, Ananda. Jai.
Hare
Allez, allez, bon.
Krishna.
Alors, vous nous donnez de la chaleur, là. On en a besoin. Mais moins 25 ici.
Aïe, 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 c'est ce que j'ai vu. Mon Dieu, tu pars demain. Ouais, ben moi, je pars lundi. Je rentre lundi, donc bon. Je vais amener un peu de chaleur, j'espère.
Oui, espérons. Ça va faire une différence. OK, alors on va commencer le cours. On est à la page 209. Alors, on est au point 10.6. Alors, Virginie, est-ce que tu voudrais lire?
Hare Krishna, oui, bien sûr. 10.6. Ceux qui ont été incités à ouvrir des hôpitaux,
Attends, attends, attends,
ceux-ci,
attends, attends.
ouais, c'est
On va
ça.
chanter.
C'est ça, voilà, je vous ai pas
Om
le.
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Om
Bhagavate
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Suis Prabhupada qui?
Jai.
Alors, à la page 209, le point 10.6. Virginie, s'il vous plaît.
On y va. 10.6. Ceux-ci ont été incités à ouvrir des hôpitaux, mais pas du tout à s'instruire du service de dévotion qui leur permettrait d'entrer dans le monde spirituel. Voyez ce qu'ont raté ceux qui ont été fourvoyés par l'énergie matérielle. Voyez la puissance du service de dévotion, lequel permet d'entrer dans le monde spirituel, mettant un terme définitif à l'existence matérielle.
Jai, merci beaucoup. Allez, allez, bon.
Allez, allez, bon.
Alors, il y a un point qui n'est pas écrit ici. Alors, c'est deux destinations complètement différentes. Alors, ceux qui ont raté, voyez ce qu'ont raté ceux qui ont été fourvoyés par l'énergie matérielle. Alors, au point 10.5, on va le lire là. Malheureusement, des commentateurs peu scrupuleux ont trahi cet enseignement fondamental et ainsi trompé de nombreux innocents. Alors, que ce soit les commentateurs peu scrupuleux ou ceux qui ont accepté de les suivre, dans un cas comme dans l'autre, ces personnes-là ratent le bateau de la forme humaine de vie qui est de leur permettre d'entrer dans le monde spirituel s'ils reçoivent par la grâce de Krishna, les enseignements leur permettant de comprendre la réalisation spirituelle telle qu'elle se doit, à ce moment-là, ils vont à leur destination est celle du monde spirituel. Être libérés de l'existence matérielle. Sinon, ben, ils vont rester encore dans ce monde matériel et même s'ils deviennent, par exemple, des impersonnalistes qui ont même été libérés dans le brahman impersonnel, ce n'est pas suffisant. Alors, c'est pourquoi ici c'est dit, ceux-ci ont été incités à ouvrir des hôpitaux. Alors, ils pensent que, bon, ben, à défaut de rien, on va essayer de faire quelque chose de bien. Et même ce bien-là, ce n'est pas pour la libération de leur personne. Ils sont encore liés par les réactions de leurs actions. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va continuer. Alors, 10.7, s'il vous plaît. Virginie?
Oui, 10.7. Ils ont appris à ne s'intéresser qu'au soulagement temporaire au lieu du véritable bonheur de l'âme. Pourquoi cette méprise? Petit 1. Par pur manque de connaissances spirituelles à la source même, il y a tout de même une énorme différence entre la vidya, la connaissance pure, et l'avidya, l'ignorance. À ce titre, c'est soit on l'a ou soit on ne l'a pas. Petit 2, il y a un manque flagrant de direction adéquate dès le départ. La
Ben oui,
teneur est
la direction adéquate, c'est parce qu'il n'y a pas de maître spirituel authentique.
C'est ça.
Le maître spirituel autorisé qui appartient à la succession disciplique remontant jusqu'à Krishna pour les guider, pour leur enseigner. Alors, sans cette source, alors numéro un, c'est dit ici par pur manque de connaissances spirituelles à la source même. Il n'y a pas de gourou authentique pour les guider, pour leur enseigner. Alors, c'est sûr que ça s'en va pas dans la bonne direction. Alors, évidemment, numéro deux, il manque un manque flagrant de direction adéquate dès le départ. Alors, on continue, s'il vous plaît.
La teneur est portée du mantra 6 de la Sri Upanishad nous éclaire sur le sujet. Au-dessus du Madhyama Adhikari se trouve l'Uttama Adhikari, qui lui voit tout en relation avec le Seigneur suprême. Il ne fait aucune distinction entre le croyant et l'athée, les voyant tous deux comme partie intégrante de Dieu. Il sait qu'en essence, aucune différence n'existe entre un brahmana érudit et un chien des rues, car bien qu'enfermés dans des corps différents en raison de leur karma respectif, ils sont chacun une infime partie du Seigneur. Parce qu'il sut faire bon usage de l'infime indépendance que le Seigneur lui avait accordée, le premier acquit un corps de brahmana, alors que le second, pour avoir mal utilisé cette indépendance, se trouva puni par les lois de la nature et emprisonné dans le corps d'un chien. Sans tenir compte des mérites respectifs du brahmana et de l'animal, l'Uttama Adhikari essaie de faire du bien aux deux. Un dévot d'une telle sagesse ne se laisse pas tromper par l'apparence extérieure du corps, mais au contraire est attiré par l'étincelle spirituelle qui l'anime. Ceux qui imitent l'Uttama Adhikari en faisant montre de sentiments de fraternité et de solidarité, mais ne prennent en considération que le corps matériel, sont de faux philanthropes. La vraie notion de fraternité universelle doit être acquise auprès d'un authentique Uttama Adhikari, non d'utopiste qui ignore tout de l'âme distincte et de l'âme suprême, l'omniprésente émanation de Dieu. Ce mantra indique clairement qu'il faut observer, regarder de façon systématique le mot Anupashyati. À nous suivre et Pashyati observer, signifie en effet qu'il ne faut pas voir les choses telles que l'œil nu nous les montre, mais suivre les acharyas d'une authentique lignée et voir par leur intermédiaire. L'œil imparfait ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. On ne peut percevoir la vérité que si on la reçoit d'une source supérieure, et la plus haute source de vérité est le savoir védique émis par le Seigneur lui-même. Cette vérité fut transmise par une succession de maîtres à disciples qui, depuis le Seigneur lui-même, se poursuivit avec Brahma, Narada, Vyasadeva et bien d'autres, jusqu'à nos jours. Au temps védique, il n'était pas nécessaire de mettre le message des Védas sous forme écrite, car l'homme plus intelligent et doué d'une mémoire plus développée qu'aujourd'hui pouvait assimiler et suivre les instructions données en ne les ayant entendus qu'une seule fois des lèvres d'un maître spirituel authentique. À l'heure actuelle, il existe de nombreux commentaires sur les écritures révélées, mais la plupart d'entre eux ne suivent pas la lignée disciplique issue de Srila Vyasadeva, qui, le premier, compila la sagesse védique. Son œuvre finale, la plus parfaite et la plus sublime, est le Srimad Bhagavatam, le commentaire naturel du Vedanta Sutra. Ce fut lui aussi qui transcrivit la Bhagavad Gita, a fait des paroles même du Seigneur. Ce sont là les écritures les plus importantes. Et tout autre commentaire en contradiction avec les principes de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam est dépourvu d'autorité. Les enseignements des Upanishads, du Vedanta Sutra, des Vedas, de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam sont tous en parfaite harmonie. Par conséquent, à moins d'avoir été initié au savoir par un maître de la lignée de Vyasadeva, croyant en la personnalité de Dieu et en ses diverses énergies telles que les décrivent l'Ishopanishad, personne n'est apte à commenter les Vedas. Selon la Bhagavad Gita 18.54, seul l'homme ayant déjà atteint la libération spirituelle Brahma Bhuta peut devenir un Uttama Adhikari et voir tous les êtres vivants comme ses propres frères. Les politiciens cupides d'aujourd'hui ne peuvent avoir cette vision. Même s'ils servent autrui au niveau du corps pour en tirer gloire ou autre avantage matériel, ceux qui ne font qu'imiter l'Uttama Adhikari ne rendent aucun service à l'âme spirituelle et n'ont aucune connaissance du monde spirituel. L'Uttama Adhikari, pour sa part, voit l'âme dans le corps de chaque être. Et quand il sert son prochain, c'est à elle qu'il s'adresse, comblant du même coup les besoins matériels et spirituels de ses frères. Soit c'est le corps, soit c'est l'âme qui prend priorité. Ils ont raté l'essentiel, identifier l'être à son âme plutôt qu'au corps matériel reçu de la nature matérielle. C'est à cette condition seule que l'on peut comprendre l'identité véritable de tous les êtres vivants et chercher à combler les besoins de leur âme. Mais ce que si peu de gens connaissent, c'est qu'en comblant les besoins de l'âme, les besoins du corps sont automatiquement pris en considération.
Hey, merci beaucoup. Om Gyana Timirandasya Gnanjana Sadakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Le Sankhya Yoga, là, Prabhupada.
Oui.
Ça peut nous aider, ça?
Le Sankhya Yoga?
Oui,
ça peut aider. Le Sankhya Yoga, c'est de comprendre les éléments matériels et les éléments spirituels. Et puis, comme Prabhupada explique dans la Bhagavad Gita, il y a l'énergie matérielle, l'énergie spirituelle, et la Bhagavad Gita nous aide à comprendre le contrôleur des deux. Alors, le Sankhya Yoga n'a pas vraiment d'importance dans le sens que s'il n'y a pas de compréhension de la source de tout ce qui existe. Le Sankhya Yoga, qui est le propagateur original du Sankhya Yoga? Est-ce que quelqu'un le sait? D'où est-ce que ça vient, ça, le Sankhya Yoga?
Moi, c'est Dieu qui est descendu pour nous enseigner ça.
Oui, c'est facile de dire Dieu, c'est Dieu qui a enseigné ça, mais lequel Dieu?
C'est Karmada qui est un yogi qui a demandé au Seigneur de lui donner un fils
non,
qui était pour répandre la connaissance du Sankhya Yoga.
OK, correct. Si j'ai bien compris, là, le nom, c'est Kardama.
C'est ça.
OK. Bon, alors son fils s'appelait comment?
Kapila.
Voilà. Alors, c'est le Seigneur Kapila Dev qui est l'incarnation de la connaissance de Krishna qui a enseigné le Sankhya Yoga. Alors, Sankhya Yoga et Bhakti Yoga, c'est dit dans la Bhagavad Gita que celui qui comprend, disons, le but des deux, disons, quel est l'objectif du Sankhya Yoga, qui est l'étude analytique de la matière et de l'esprit, et le Bhakti Yoga, qui est en fait l'esprit qui s'engage au service de Krishna. Celui qui comprend l'objectif des deux voit les choses telles qu'elles sont. Il y a un verset comme ça dans la Bhagavad Gita. Alors, c'est la grâce de Krishna de pouvoir comprendre Sankhya Yoga et Bhakti Yoga. En fait, ça fait partie du même chemin du Bhakti Yoga. Autre question, commentaire? OK. Alors, on décrit dans la teneur et portée du mantra 6 de la Sri Upanishad la vision d'un Uttama Adhikari. Et est-ce que quelqu'un peut décrire c'est quoi la vision de l'Uttama Adhikari d'après ce qu'on a lu?
Il voit les êtres sous leur vraie forme. Il voit l'âme dans le cœur de chaque être. Il ne s'arrête pas à la forme matérielle et des corps grossiers des êtres. Il va en profondeur. Il voit la vraie nature de tous les êtres.
Exactement. Et tous les êtres sont des parties, des parcelles de Krishna. Il voit la relation avec Krishna. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire par rapport à tous ces êtres? Mettons, l'Uttama Adhikari va voir un brahmana et il va voir un chien des rues. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire?
Faire du bien aux deux.
Exactement.
Oui.
Il essaie de faire du bien aux deux. Alors, comment est-ce qu'il va faire du bien aux deux?
En traitant de la même manière qu'il traiterait le brahmana, le chien.
C'est une façon de dire.
Oui. Il va
Parce que le brahmana il va lui dire ok viens dans le temple puis le chien va dire va jouer dans le cours.
Non, mais... non, ok, mais je sais pas comment l'expliquer, mais oui.
Alors le maître spirituel ou le pur dévot de Krishna ou l'âme réalisée va aider les deux en chantant le Maha Mantra avec le Sankirtan, les dévots qui chantent. Et si jamais il reste du prachad que les dévots ne veulent pas, ben ça va aller au chien. Des fois, c'est des choses qui arrivent. Les dévots, pour une raison ou pour une autre, le prachad, ils ne le finissent pas ou le prachad tourne un peu. Alors, les dévots, d'habitude, ils ont un endroit, si ce n'est pas un gros contenant, ils vont verser ce prachad-là là-dedans. Puis ça, ben, ça va aller à qui veut bien le prendre dans la nature. Et je me souviens quand on est au premier temple sur l'avenue du Parc à Montréal, là, à l'étage, on était au quatrième étage, et les dévots, quand il y avait du prachad de cette nature, ils le lançaient sur le toit de l'édifice. Alors, à qui veut bien venir le prendre? Ça finissait toujours par partir. Dieu sait comment. Alors, ça devait être les oiseaux qui devaient en manger. Mais une prachade, c'est là qu'il finissait. au temple de Montréal, d'aujourd'hui. Alors, ils ont un pot, un gros pot, puis le prachat de soit les restants des invités le dimanche, ça va dans ce pot-là. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce gros pot-là? Ils vont probablement le mettre dans la cour, puis ça va partir dans la nature. Donc, des êtres vivants vont s'en occuper. Alors, les dévots ont cette vision que si c'est la miséricorde de Krishna, ben c'est bon pour tout le monde. Selon la capacité des êtres vivants à apprécier cette miséricorde. Mais les dévots ont toujours cette vision, comment faire profiter le plus possible d'êtres vivants de la conscience de Krishna, dans une forme ou une autre. Alors, comme par exemple, la distribution de prachad, c'en est une façon de faire profiter les gens de la conscience de Krishna, et ce, même s'ils ne le savent pas, qu'en fait, la nourriture a été offerte à Krishna et que c'est spirituellement, c'est bénéfique pour eux autres. Mais les dévots le savent et Krishna le sait. Alors, il y a un arrangement qui veut que, ben, qui va avoir du prachad, qui n'en aura pas. C'est une grâce. C'est la grâce de Krishna d'avoir du prachad. Alors, un dévot est très très heureux lorsqu'il y a des festivals où il y a beaucoup, beaucoup de prachad qui est distribué aux âmes conditionnées. Le dévot est heureux de ça parce qu'il sait, ça va faire plaisir à Krishna qu'il y ait autant de monde, le plus possible, qui bénéficie du prachad. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, maintenant on va continuer. OK, on va continuer. Ananda, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. C'était 10.8, hein, c'est ça? Ouais.
Ouais, c'est ça.
10.8. Il crée toutes sortes d'institutions nationales ou privées destinées à maîtriser le pouvoir dévastateur de la nature, mais il n'arrive pas à apaiser cette insurmontable puissance. La Bhagavad Gita 7.4 souligne la puissance 7.14 souligne la puissance insurmontable de la nature. Devi hi hesha guna mahi mama maya duratyaya mam hevaye prapadyante mayam etam tarantite. Devi transcendantal hi certes hesha certes. 7, mon Dieu, pardon. 7. Guna Mahi constitué des 3 gunas. Mama, mon. Maya, énergie. Duratyaya, très difficile à surmonter. Mam, à moi. Eva, certes. Ye, ce qui. Prapadyante, s'abandonne. Mayam, etam, cette énergie illusoire. Taranti, vainque. Et te, il. Il est très difficile de surmonter cette divine énergie que constituent les 3 gunas. Mais qui s'abandonne à moi en triomphe aisément? Teneur et portée. Le Seigneur suprême possède d'innombrables énergies, toutes divines. Les êtres vivants, qui comptent au nombre de ces énergies, sont donc de nature divine. Toutefois, au contact de l'énergie matérielle, leur pouvoir original supérieur se voile. Et une fois recouverts par elles, il leur devient impossible d'en vaincre par eux-mêmes les influences. Par ailleurs, les énergies matérielles et spirituelles étant, nous l'avons vu, des émanations de la personne suprême, sont toutes deux éternelles. Les êtres vivants participant de l'énergie supérieure éternelle du Seigneur, une fois contaminés par la nature inférieure, la matière, leur illusion devient également éternelle. Aussi, les nomme-t-on Nitya Badas, éternellement conditionné. S'il est si difficile d'échapper aux griffes de la matière, c'est que nul n'est capable de retracer le point de départ de son conditionnement. Il est vrai que l'énergie matérielle est inférieure, mais elle opère sous le contrôle de la volonté suprême, qu'aucun être n'est capable de vaincre. Si on la qualifie de divine, c'est qu'elle émane du Seigneur et n'agit que par sa divine volonté. Ainsi, bien qu'elle soit inférieure du fait qu'elle repose entièrement sur la volonté suprême, l'énergie matérielle du Seigneur remplit admirablement les fonctions de création et de destruction de la manifestation cosmique. C'est ce que corroborent les Védas, Svetashvatara Upanishad 4.10, Mayam tu prakritim vidyamayinam tu maheshvaram, Maya, l'illusion, est certes fallacieuse, temporaire, mais derrière elle se tient le magicien suprême, la personne divine, le maître absolu, Maheshvara.
Ouais.
Le...
Merci.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, de quoi est-ce que beaucoup d'êtres vivants ont peur?
La
La
mort.
mort.
Ouais, mais à part de ça, il y a une autre chose qu'ils ont
Souffrance,
vraiment
la
peur.
souffrance, oui.
De perdre
Souffrance.
l'argent.
Pardon?
De perdre de l'argent.
Souffrance.
Ah, ça, c'est rien, ça. Quelle est la plus grande peur? À part la mort, là, oublie, mettez la peur de, la mort de côté, là.
La maladie.
On met ça de côté aussi.
Virginie a dit la souffrance.
On met ça de côté aussi. Quelle est la plus grande crainte qui est commune à tous les êtres vivants?
De pas être aimé.
Non. Quand les gens voient une catastrophe, et supposons que la Terre serait menacée de se séparer en deux. Ça, c'est de la pure fiction, là. Est-ce que les gens auraient peur ou ils continueraient chacun dans leur petit coin, là, leur
Un petit peu,
train-train de vie? Hein?
il y aurait peur un petit peu, pas mal.
Un petit peu pas mal. Ben justement, ça, c'est la crainte. La crainte de la fin du monde, comme bien des gens disent. Tout le monde a peur, justement, de cette possibilité et de cette éventualité à travers laquelle les âmes conditionnées ont déjà passé à travers. Est-ce qu'on peut prendre ça pour acquis?
Oui.
On peut prendre ça pour acquis parce que l'âme conditionnée, comme on a dit ici, là, une fois qu'elle devient recouverte par l'énergie matérielle, son illusion, c'est dit ici, les êtres à la ligne 10, les êtres vivants participants de l'énergie supérieure éternelle du Seigneur, une fois contaminés par la nature inférieure, la matière, leur illusion devient également éternelle. Aussi les nomme-t-on Nityabada, éternellement conditionné. Et là, ce qu'on a expliqué aussi là-dedans, c'est que c'est impossible pour les âmes conditionnées de se libérer par elles-mêmes de cette influence-là. Alors, comme vous avez mentionné, la peur de souffrir, ben justement, s'il y a une destruction totale, là, la peur de souffrir est grande, pas à peu près, parce que tout le monde va souffrir. C'est effroyable. Juste d'y penser, mais c'est là, dans l'existence matérielle. Il n'y a personne qui peut être garanti qu'il ne sera jamais sujet à une calamité quelconque dans le monde matériel. C'est comme si, par exemple, on écoute les nouvelles tous les jours. Et tous les jours dans les nouvelles, il y a des catastrophes dans un endroit ou un autre. Et les gens qui sont bien, ne peuvent pas prendre pour acquis, ne devraient pas en tout cas, prendre pour acquis que, nous, ça nous arrivera jamais, ça. Ça peut arriver. Ça prend juste un caprice de la nature matérielle et puis tout le monde se retrouve dans le pétrin. Alors, donnons un exemple. Ici, à Montréal, en 98, il y a eu ce qu'on appelle la crise du verglas. Ça a passé tout près d'être vraiment une catastrophe, cette crise-là. Il s'en fallait de peu. Pas d'électricité pendant une quinzaine de jours à peu près. Les services d'épuration de l'eau qui ne fonctionnaient pas non plus. C'était pas un cadeau, ça, cette période-là. Ça aurait pu être pire si ça avait continué comme événement. Ce n'est pas revenu par la suite, Dieu merci. Et ailleurs dans le monde, c'est sûr qu'il y a d'autres genres d'événements qui sont des catastrophes. Et ça fait partie de l'existence matérielle, qu'il y a justement des souffrances que les gens peuvent être obligés de passer à travers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Question, commentaire?
Chanter le Mahamantra et essayer de répandre la conscience de Krishna le plus partout, parce qu'au final, c'est la seule chose qui peut vraiment répondre à tous ces mots-là, en fait.
Oui, absolument. Alors, un dévot de Krishna, et comme on a lu ici aujourd'hui, là, comment est-ce qu'il faut voir les choses? Qu'est-ce qu'on a lu? Comment est-ce qu'un dévot voit les choses?
Détaché du corps?
Ce qu'on a lu aujourd'hui.
D'un œil égal?
Ça, il voit les êtres vivants d'un œil égal, ça c'est correct.
Mais les dualités...
Là, on parle des choses, des événements. Le monde matériel, comment est-ce qu'un dévot voit?
Comme l'énergie... Attends, la lune, c'était où?
On l'a lu, justement, au début.
Oh, oui, c'est ça, au tout début.
Ça, c'est à la page 210 à partir de la ligne 31. Alors, je vais le lire. Ce mantra indique clairement qu'il faut observer, regarder de façon systématique. Le mot anupachati, anu qui veut dire suivre et pachati veut dire observer, signifie en effet qu'il ne faut pas voir les choses telles que l'œil nu nous les montre, mais suivre les acharyas d'une authentique lignée et voir par leur intermédiaire. L'œil imparfait ne permet pas de voir les choses telles qu'elles sont. On ne peut percevoir la vérité que si on la reçoit d'une source supérieure. Et la plus haute source de vérité est le savoir védique émis par le Seigneur lui-même. Ça, c'est la façon qu'il faut voir les choses. Alors, ça, c'est une chose. Et une autre façon, pas une autre façon, mais une description comment voir les choses à travers l'œil des Écritures aussi. Alors, l'énergie matérielle est décrite à la page 212, ligne 22. C'est la citation du Svetasvatara Upanishad 4.10. Maya, l'illusion, est certes fallacieuse, temporaire, mais derrière elle se tient le magicien suprême, la personne divine, le maître absolu, Maheshwara. Maheshwara, ça veut dire quoi, ça? C'est composé de deux mots. Maha et Ishwara. Maha, ça veut dire quoi?
Le grand.
Grand âme, en fait. L'âme suprême, en fait.
Oui, ça, on a Paramatma pour ça, l'âme suprême.
Ouais, ok, d'accord.
Maheshwara. Maha veut dire grand et Ishwara, ça veut dire quoi?
Contrôle.
Contrôleur ou le maître. Alors, Maheshwara, celui qui est le maître de tout. Tu vois, comme c'est dit ici, juste le, avant, là, le maître absolu, la personne divine, le maître absolu, ensuite, virgule, Maheshwara. C'est ça que ça veut dire, Maheshwara, le maître suprême. Alors, petite leçon du jour. Au lieu de paniquer quand il y a une difficulté, est-ce qu'on peut demeurer serein? C'est ça la question.
Oui.
À condition de?
Ben, à condition de tout abandonner à... Pardon.
S'abandonner à Krishna, parfait. À condition de penser à Krishna, c'est lui qui contrôle. Alors, un dévot de Krishna est toujours dans cette position, disons, abandonnée à Krishna. Et quoi qu'il arrive, il remercie Krishna pour les conditions dans lesquelles il peut se trouver. Il considère les conditions comme la miséricorde de Krishna. Alors, qu'est-ce que le dévot veut en dépit de toutes les conditions? Quel est le désir d'un dévot? Quelle est la ligne d'action d'un dévot?
Servir Krishna?
Non.
Pardon? Madhavananda?
De penser à Krishna tout le temps, comme si on n'est pas affecté par les...
C'est exactement ça. Le dévot veut toujours penser à Krishna. Ça veut dire toujours se souvenir de Krishna, jamais ne l'oublier. Ça, c'est la définition de la conscience de Krishna. Toujours penser à Krishna, jamais oublier Krishna. Alors, le dévot veut ça. C'est son désir. Toujours se rappeler de Krishna. Et c'est la grâce de Krishna de pouvoir se rappeler de Krishna. Alors, faut vraiment être sincère pour que Krishna, qui est situé dans le cœur du dévot, l'inspire de se rappeler de lui, peu importe qu'est-ce qui arrive. Et le moment crucial où ce qu'un dévot ne devrait pas, disons, ne pas se souvenir de Krishna, c'est
à la mort.
Au moment de la mort.
Alors, au moment de la mort, le dévot ne devrait pas l'échapper. Il devrait se rappeler de Krishna. Et s'il se rappelle de Krishna, où est-ce que le dévot s'en va?
Au monde spirituel de Krishna.
Goloka Vrindavan. Il s'en retourne au monde spirituel. Alors, un dévot, comme chez le Prabhupada, au début, on a lu, à la page 209, au tout, le dernier paragraphe en bas, le point 10.6, en fait. Ceux-ci ont été incités à ouvrir des hôpitaux, mais pas du tout à s'instruire du service de dévotion qui leur permettrait d'entrer dans le monde spirituel. Ah, ça, c'est la vision d'un dévot. Il regarde à long terme les actions accomplies dans le moment présent. Où est-ce que ça mène? Où est-ce que ça s'en va? Alors, pour un dévot, c'est le monde spirituel qui est au bout de la ligne. Et pour un non-dévot, ben c'est n'importe quoi. Ça dépend du karma. Ça dépend du vie-karma aussi, des mauvaises actions qui ont été accomplies. Une question de réaction. Mais pour un dévot, c'est, disons, sous la protection de Krishna, il n'y a pas de réaction pour ses actions. Il n'est pas lié parce qu'il est engagé complètement dans le service de dévotion offert à Krishna. Alors, qu'est-ce qu'un dévot désire?
Servir Krishna.
Exactement. Le dévot, il ne demande rien d'autre à Krishna que de le servir. Le service, donc, dans les écritures qu'on a lues aujourd'hui, mais la récompense du service de dévotion, c'est quoi?
Le bien-être, le bonheur.
Non. Le bien-être, le bonheur, le dévot n'est pas attaché à ça, là.
Non.
Être en compagnie de Krishna.
Mais tout d'un coup, on voit pas Krishna.
Non, mais quand on a ce lien avec lui, de justement penser à lui, le servir, on crée un lien, et en fait, ce lien se renforce de jour en jour.
Oui, je suis d'accord avec ça, pas de problème. Mais la réponse simple, quelle est la récompense du service de dévotion?
Libération de ce monde matériel.
Non, parce que le Seigneur Chaitanya, il dit « Je veux servir Krishna vie après vie. » Alors, il ne demande pas la libération, il ne demande pas de la richesse, il ne demande pas des jolies femmes. Il demande juste le service de dévotion, vie après vie. Alors, c'est quoi la récompense?
De pouvoir se rappeler de Krishna tout le temps.
Oui, mais ça, se rappeler de Krishna tout le temps, c'est faisable à condition de.
De le voir partout.
Oui, mais les yogis qui sont pas plus dévots que ça, eux autres aussi le voient. Jusqu'à un certain point, là. Alors, la récompense... Ah, oui?
Protection de Krishna?
Oui, et la protection de Krishna, c'est comment que ça se fait, ça?
On a toujours tout ce qu'on a besoin sans jamais avoir... Voilà, le dévot, il est comblé parce que Krishna comble tout en fait, ce dont le dévot a besoin.
Et de quoi le dévot a besoin?
De plus d'occasions de servir Krishna.
Exactement. La récompense du service de dévotion.
C'est plus de service de dévotion.
C'est plus de service de dévotion. C'est ça la récompense.
Bravo, Ananda.
C'est écrit en quelque part par Prabhupada, ça. La récompense du service de dévotion, c'est plus de service de dévotion. Alors là, le dévot est comblé. Alors, c'est ça que le dévot veut. Plus de service de dévotion. Alors, ça, c'est, comment on peut dire, c'est l'extase pour un dévot. Plus de service de dévotion. Alors, si le service de dévotion est accompli de façon machinale, si le dévot doit faire plus de service de dévotion, mais il fait le service de dévotion de façon machinale, qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce qu'il va percevoir le service de dévotion?
Comme du travail.
Comme un fardeau, une besogne à finir au plus vite. Ça devient pas mal matériel, en fait. Tu sais, moi, je fais du 9 à 5, là. Je donne un exemple, là, simplement. Faire du 9 à 5, et puis, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher là-dedans? Il y a des choses matériellement parlant, on peut dire. Mais le service de dévotion, ça doit être quelque chose que le dévot est content de faire et qui se souvient de Krishna dans le service de dévotion, puis il est heureux là-dedans de faire le service pour Krishna. Alors, s'il y en a plus à faire, il va essayer de trouver l'énergie pour en faire plus au service de Krishna.
J'ai une question.
Oui.
C'est une question.
Oui, oui.
Dans le service de Krishna qui devient, dire, comme un job, tout ça, mais c'est mieux de le faire que pas le faire du tout, que peut-être avec le temps, veut dire, ce service-là va t'amener à un service d'amour, non?
C'est mieux de le faire que pas le faire. Ça, c'est sûr, parce que si tu fais rien, qu'est-ce que tu es en train de faire, là? C'est pas mieux non plus. Alors, le service de dévotion, en général, il y a un goût dans le service de dévotion. Alors, s'il n'y a pas de goût, comme ça peut être le cas dans des stages débutants dans le service de dévotion, tu le fais pour le faire, puis c'est tout. Tu le fais parce que le maître spirituel a dit, ben voici ce qu'il faut faire. Puis il n'y a pas plus de goût ou d'appréciation que ça. Mais ça va venir avec le temps, par exemple. Ça, t'as tout à fait raison. C'est correct, ça répond à la question.
Il y a le Seigneur.
Oui.
Il y a le Seigneur Chaitanya, je sais pas si c'était dans, où il dit, j'ai pas de goût, va chanter votre nom, je trouve pas de goût à votre nom et tout ça. Puis, il demande la bénédiction pour y trouver ce goût-là, tu vois.
Oui. C'est ça. Pas juste, ben, le chant des Sénats, ça, c'est le deuxième verset du Sukshastakam. Le verset dit, oh, mon Seigneur, vous avez rendu ça tellement facile de vous approcher. Vous avez beaucoup, beaucoup de noms, des saints noms. Mais moi, j'ai pas d'attraction pour ces noms-là ou pour chanter. Alors, c'est ça. Alors, le service de dévotion, c'est pas évident dans les débuts. C'est pourquoi il faut persévérer. Et puis, à un moment donné, ça va déclencher. Et quelqu'un va trouver du goût dans le service de dévotion. Ou des fois, quelqu'un va venir au début dans le service de dévotion, puis après il va s'en aller. Et là, même s'il a fait quelque chose, il a fait un peu de service de dévotion, il pourra jamais oublier cette expérience-là. Et si jamais il retourne au service de dévotion, le goût, il va apprécier justement ce que le service de dévotion peut lui apporter. Et Krishna est tellement, disons, gentil envers les dévots, que même si les dévots sont à leur tout début, Krishna leur donne de l'extase pareil. C'est un peu plus loin, disons, que Krishna va leur faire sentir, ben là, il commence à être temps que tu m'en donnes un peu plus. Puis là, le dévot va sentir que il y a quelque chose qui marche pas, là. Il faut qu'il s'abandonne davantage, il faut qu'il fasse plus de services pour que justement ce goût qu'il a goûté un jour lui revienne. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça, vous autres?
Oui.
Ah, c'est ça. Moi, je me souviens, quand j'étais nouveau dévot, les fêtes du dimanche, là, On était très, on sautait haut durant les kirtans. Je pense que j'ai jamais sauté aussi haut et aussi souvent de ma vie qu'à ces kirtans-là. Et après, bon, ben, il y a eu beaucoup de kirtans, mais pas comme dans les tout débuts, simplement. Mais ça, moi, j'appelle ça, dans mon petit livre à moi, j'appelle ça de l'extase gratuite. Et Krishna, il donne de l'extase. Et puis après, ben, pour en mériter d'autres, il faut que tu t'abandonnes plus. Il faut que tu fasses plus de services. Ça vient avec le service accompli. Simplement. Alors, des fois, on peut être extatique et avoir aucune manifestation extérieure du contentement que l'on ressent via le service de dévotion. Ça peut être... Donc, donnons un exemple. Et ça, je peux pas parler d'un exemple personnel parce que c'est... Je raconte quelque chose qui s'est passé avec Srila Prabhupada. Dans le sens que, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a une photo de Prabhupada qui est, dans laquelle Prabhupada a une figure très très grave. Et qui est dans les livres, je pense, qui montre Prabhupada, c'est l'Acharya, c'est le maître spirituel fondateur de ISKCON, mais ça, c'est une des premières photos de Prabhupada à ce titre-là. Et quand vous regardez le visage de Prabhupada, my goodness, il n'y a pas de sourire, et tu peux pas savoir, il est grave, 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 tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il pense, cette photo-là. En général, tu peux pas savoir non jamais qu'est-ce que Prabhupada pense, parce qu'il est trop élevé pour nous, spirituellement parlant. Alors une fois, un dévot, un jour, dit à Prabhupada, en parlant de la photo en question, lui fait un commentaire, et dont je me souviens pas, et Prabhupada, le dévot, c'est comme s'il lui demande à quoi pensait Prabhupada sur cette photo-là. Et Prabhupada lui a répondu, il dit, j'étais en extase. La photo, ça avait pas l'air de ça du tout, du tout, du tout. Mais Prabhupada dit, j'étais en extase. Alors, des fois, ça peut arriver. Que extérieurement parlant, il n'y a pas de signe plus qui sont témoins de ça, mais le dévot est très content à l'intérieur, dans son cœur. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? OK, on va continuer. On est rendu où, là? OK. On est à la page 212. Ananda, veux-tu continuer, s'il vous plaît?
Oui, on était arrivé...
Ligne 25.
À ligne 25, parfait. Le mot guna, qui signifie également corde, indique que l'âme conditionnée est prisonnière des liens de l'illusion. Pieds et poings liés, un prisonnier ne peut espérer se libérer par lui-même. Et comme il n'a rien à attendre de ses compagnons de misère, il ne devra sa liberté qu'à un homme libre. De même, seul Krishna et son représentant authentique, le maître spirituel, peuvent émanciper l'âme conditionnée. Sans aide supérieure, sans le secours du service de dévotion, la conscience de Krishna, nul ne saurait trancher les liens qui le retiennent à la matière. Krishna, maître de l'énergie illusoire, peut, par miséricorde infinie pour l'âme soumise, par affection pour un être qui, à l'origine, est son fils bien-aimé, ordonner à cette force invincible de lui rendre sa liberté. C'est donc seulement par l'abandon aux pieds pareils au lotus du Seigneur que l'on pourra échapper aux griffes de la redoutable nature matérielle. Notons l'importance des mots Mam Eva. Mam Eva renvoie à Mam renvoie à Krishna, Vishnu et à lui seul. Car même si Brahma et Shiva, qui président respectivement le Rajogun, la passion, et le Tamogun, l'ignorance, sont très élevés et presque du niveau de Vishnu, ils n'ont pas le pouvoir de soustraire l'âme conditionnée aux griffes de Maya. Eux-mêmes en subissent l'influence. Seul Vishnu, le maître de Maya, est à même de libérer les êtres de son emprise. Les Védas, Shvetashvatara Upanishad 3.8, confirment seuls par les mots Tam Eva Viditva, n'obtient le salut que celui qui connaît Krishna. Et Shiva lui-même affirme que la libération ne peut être atteinte que par la grâce de Vishnu. Mukti Pradata Sarvesham Vishnur Evana Samsaya. Vishnu est sans aucun doute celui qui accorde la libération à tous les êtres. La teneur et portée de ce verset de la Gita est très lourde de sens. Somme toute, l'énergie matérielle est une énergie divine insurmontable, à moins de s'abandonner au Seigneur. Il n'y a aucun autre moyen.
Jai.
Jai.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, une question piège. Est-ce qu'on peut s'abandonner à Krishna un jour? Et puis, un autre jour, ne pas être abandonné à Krishna?
Oui, non.
Mettons, s'abandonner à Krishna un jour sur deux?
Non, c'est pas possible. Et en même temps, peut-être. Je dirais oui, non. Vous avez dit question piège pas vous, alors...
Ouais, c'est ça, question piège.
Alors oui et non? Je ne sais pas, non.
À des fois, il y a de la brume de... Des fois, il y a de la brume devant l'abandon, on veut dire, on voit pas clair.
Oui, l'énergie matérielle est puissante.
Je dirais même que il y a peut-être, je rajouterais à ça, que peut-être effectivement, il y a ce côté aussi où ben, le jour 1, on s'abandonne, on est pleinement, et par exemple, jour 2, ben, en fait, Maya, on dirait qu'elle revient encore plus à la charge, peut-être?
Oui, comme, disons, OK. Quelqu'un pense qu'il s'est bien abandonné à Krishna, tout va bien, tout baigne dans l'huile. Mais tout d'un coup, il arrive quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Comme par exemple, avoir fait une offense à un pur dévot. Il va avoir une réaction pour ça. Et la réaction, justement, c'est que, on a lu ça, je ne m'abuse. Il sera envahi de désirs matériels. Et là, à ce moment-là, ça va mal à la shop, comme on dit. Tu veux servir Krishna, mais tu as une embrouille de désirs matériels qui te talonne, qui te harcèle et qui finalement, ça te rend fou. Alors, il y a des choses dans le service de dévotion qu'il faut faire bien attention de ne pas faire. Et je vais donner un exemple. Et par exemple, quand vous allez, là, je parle de l'Inde, là. Quand vous allez à Vrindavan, il y a un endroit où Krishna a accomplit la danse rasa avec les gopis. Et c'est dit que le soir, il ne faut pas aller dans cet endroit-là. Il ne faut pas aller voir qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là parce que c'est dit que la danse rasa continue. Alors évidemment, avec nos yeux, comme on a parlé tantôt avec nos yeux imparfaits. On peut pas, disons, voir ces choses-là. Mais c'est dit de ne pas y aller. Et la conséquence d'y aller pareil, c'est si quelqu'un dit, ah, moi, je crois pas à ça, moi. Je vais y aller pareil. Ben, la conséquence, c'est de devenir fou. C'est la folie. Alors, c'est dit, faut pas s'aventurer, justement. Là où Krishna accomplit la danse rasa, le soir ou la nuit, faut être ailleurs, mais pas là. Alors, ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans le service de dévotion. Alors, quel genre d'offense que quelqu'un peut commettre? Ben, à des dévots. Même si c'est dit, ah, ça, c'est des dévots ordinaires. Faut pas considérer les dévots comme des personnes ordinaires non plus. Pourquoi?
On se sent supérieur en faisant ça. Notre ego monte.
Ouais, mais disons, ça, c'est une chose.
Qui ont déjà transcendu la matière.
Parce que les dévots se sont abandonnés à Krishna. Et ils sont chers à Krishna. Alors, on peut pas traiter des dévots n'importe comment, là. Faut faire attention. Il faut éviter les offenses envers les dévots. Et c'est une raison suffisante pour faire preuve de respect à l'égard des dévots de Krishna qui veulent s'abandonner à Krishna. Aussi simple que ça, là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
J'avais une question.
Oui.
Si on ne sait pas quelle offense qu'on a fait, puis on paye, veut dire, moi, j'étais malade pendant 2 jours, j'ai vomi sans arrêt. En ce moment, j'ai de la misère à focusser sur Krishna comme d'habitude. Je me sentais mieux. Là, je pense à Krishna, mais pas de la même façon. Puis comment on sait qu'est-ce qu'on a fait? Veut dire, on peut pas le savoir. Des fois, veut dire, on fait quelque chose, puis on paye pour sans le savoir. Veut dire, j'ai dû faire une offense, mais je sais pas laquelle. Je l'ai fait plusieurs, en passant peut-être.
Mais des fois, ça vaut pas la peine de se casser la tête à savoir le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Ou simplement rester persévérant à vouloir être conscient de Krishna, chanter avec Krishna, se souvenir de Krishna. Et ça, se souvenir de Krishna, c'est comme le dernier retranchement. Il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Tu sais, ton corps peut... Au moment de la mort, c'est ça, là, finalement. Là. Tu vois, c'est le corps qui se... J'utiliserais le mot désagrège, mais c'est pas vraiment le bon mot, là. C'est le corps qui est détruit, qui cesse de fonctionner comme il devrait. Mais qu'est-ce qui te reste dans tout ça? C'est la personne est témoin. Elle subit les changements, mais en même temps, elle est immuable. Son âme est immuable. Alors, qu'est-ce qui lui reste? C'est de se souvenir de Krishna. Pourvu qu'elle puisse se souvenir de Krishna. C'est comme, par exemple, c'est un peu comique, mais ça ne l'est pas non plus. Quand la personne vomit, ben, tu vas vomir, mais t'essayes de te rappeler de Krishna malgré tout.
Oui.
C'est pas si facile que ça, parce que c'est une foutue expérience, ça. C'est pas le fun du tout, là. Mais c'est ça pareil. Donc, il faut se souvenir de Krishna. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Et puis, si, après les difficultés, on se dit, on fait le bilan, puis on se dit, est-ce que je me souvenais de Krishna? La réponse est oui ou la réponse est non, ou je m'en suis souvenu à 20%, mais l'autre 80%, j'étais vraiment dans la brume, si on peut dire. On peut faire un bilan. Et puis, demander à Krishna, ben, la prochaine fois, si prochaine fois il y a, je vais essayer de m'en rappeler puis essayer d'être plus conscient de Krishna.
Moi, j'ai vu que en me souvenant de Krishna, ça m'aidait de la peur que j'avais parce que je voyais noir. Je me suis évanoui à terre, puis je savais pas qu'est-ce qui passait. Mais on n'est pas jeune là, des choses que veut dire on vit qu'on n'a pas vécu avant. Et je demandais à Krishna, veut dire aidez-moi à guérir, à pas avoir peur, tu vois, veut dire de m'abandonner si je dois mourir, que je meurs, tu vois.
Ouais, ouais. Ben ça, c'est concert Krishna. C'est sûr, Krishna, comment on peut dire, il apprécie cette attitude. Des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, c'est l'attitude qui compte. Essayer de plaire à Krishna par l'attitude qu'on peut avoir dans les circonstances. Parce qu'on n'est pas Krishna, on n'est pas Prabhupada non plus, on est ce qu'on est. Alors, on a le petit bout de connaissance qu'on puisse avoir, et puis on fonctionne avec. Disons, comme on dit, Gyana, Vigyana, ça veut dire Gyana, c'est la connaissance théorique, mais Vigyana, ça veut dire la connaissance réalisée, nos convictions, qu'on ne peut pas nous enlever, mais qu'on reste ferme avec. C'est ça notre vie spirituelle. Alors des fois, on est testé par les circonstances, puis il faut être conscient de Krishna autant que possible. Krishna est comment on peut dire, est reconnaissant. Et c'est donc qu'on essaie de garder le cap, de rester accroché au pied pareil au lotus de Krishna. C'est donc, oui.
Mais seulement dire, la peur s'en va automatiquement aussitôt qu'on met Krishna dans notre mental, là. La peur de n'importe quoi qui peut arriver s'en va automatiquement. C'est incroyable.
Oui, exactement. T'as tout à fait raison. Et, comme on lit aujourd'hui, page 212, ligne 22, là. La citation de Svetasvatara Upanishad 4.10. Maya, l'illusion, est certes fallacieuse, temporaire, mais derrière elle se tient le magicien suprême, la personne divine, le maître absolu, Maheshwara. Alors, le dévot, qu'est-ce qui est plus important pour lui? Les circonstances ou Krishna, qui est le maître absolu.
Le maître absolu.
Exactement. Alors, si le dévot se souvient du maître absolu, il est tolérant. Ça prend beaucoup de tolérance qui peut nous permettre de ne pas oublier Krishna, mais de penser à Krishna. Alors, il faut voir plus loin que l'immédiat. Il faut voir justement systématiquement, comme ça a été dit, ça a été cité là, Eva nous pachati. Pachati veut dire voir, et Eva, ça veut dire certainement. Alors, il faut voir de façon systématique que Krishna est dans tout, Krishna est disons, derrière tout. C'est ça la conscience de Krishna. Ne pas oublier Krishna malgré tout ce qui peut arriver. Alors, si il arrive une circonstance où c'est la destruction, ben, faut prier Krishna de pouvoir se souvenir de Krishna, que notre souvenir de Krishna, lui, ne soit pas détruit par la circonstance. Et comme tu dis, Madhavananda, aussitôt tu te souviens de Krishna, le problème est comme réglé. Mm. Tu peux passer à travers. Et c'est ça que le dévot veut. Et la grâce de Krishna, c'est simplement ça. De se être en contact avec Krishna, le souvenir de Krishna.
C'est comme on s'identifie plus au costume, on s'identifie plutôt au spectateur du spectacle qu'on voit. On est comme retiré de la scène. On voit qu'on est un acteur, qu'on n'est pas le costume, là, comme ils disent, là, tu sais.
Ouais, c'est ça. On est l'âme dans le corps. Et comme Prabhupada dit, aham brahmasmi, là. Je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle. Prabhupada dit, il faut le réaliser pratiquement. Alors, et c'est pas Pierre Jean-Jacques, ou n'importe qui d'autre qui va le réaliser à notre place, c'est soi-même qu'il faut le réaliser. Prabhupada qui dit, il faut avoir une réalisation pratique de ce que ça veut dire, ça. Aham brahmasmi, je ne suis pas ce corps, je suis une âme spirituelle. Alors, la circonstance que tu décris, là, c'est une occasion comme ça, là, d'être plus conscient que jamais qu'on n'est pas ce corps, mais on est une âme spirituelle qui, elle, n'est pas affectée. Elle ne change pas. L'âme ne change pas. Elle est immuable. Malgré les difficultés que peut représenter le corps matériel. Alors, par le chant du Mahamantra, on peut être situé en transcendance. Questions, commentaires? Alors, OK, on continue un petit peu. OK, on va continuer un petit peu. Virginie? 10.9, à la page 213.
10.9. Beaucoup de théologiens réputés pour être des spécialistes de la Bhagavad Gita dédaignent la méthode que donne la Bhagavad Gita 7.14 afin de surmonter la nature matérielle. Cette méthode consiste à s'éveiller à la conscience de Dieu. Que signifie s'éveiller à la conscience de Dieu? Est-ce une composante d'une religion dite sentimentale? La différence se trouve dans la rectitude de conscience de Dieu des adeptes. Sont-ils vraiment ce qu'ils prétendent être? Sont-ils vraiment conscients de Dieu tel qu'entendu dans les écritures védiques ou autres? Peu importe, les enseignements transcendantaux reçus, les adeptes doivent en afficher les caractéristiques voulues. À vrai dire, une conscience de Dieu tangible est indissociable d'une solide base philosophique, laquelle se doit d'être reçue d'Acharya, de maître spirituel réalisé. Les Écritures transmettent les enseignements de Dieu ainsi que ceux des âmes réalisées qui se sont engagées à le servir avec une pureté indéfectible. S'en imprégner donne les résultats escomptés.
Jai, merci beaucoup, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Alors, qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin dans la vie?
Besoin, c'est-à-dire Krishna.
Mais tu peux pas avoir Krishna tout seul.
Non.
Et le maître spirituel.
Du maître spirituel.
Exactement. Ça
c'est
prend
le guide,
un homme.
En fait.
Ça prend un guide spirituel.
Mm-hmm.
Et ce sont, comme on vient de lire ici, là, ça prend une âme réalisée, en fait, pour vraiment nous guider, nous éclairer. Et ça, c'est le plus grand besoin de la vie humaine. Et c'est très rare ceux qui vont pouvoir avoir cette opportunité-là. Malheureusement, la majorité des hommes passe complètement à côté de la plaque, comme on dit. Et c'est malheureux. C'est pourquoi un dévot essaie de répandre la connaissance de Krishna. Et cette connaissance de Krishna, elle est transmise par un pur dévot, comme Śrīla Prabhupāda, un maître spirituel authentique. Et avant Śrīla Prabhupāda, ben, c'était dans la succession disciplique Śrīla Bhaktisiddhānta, avec ses disciples. Mais Prabhupada en particulier, il a suivi l'instruction de son maître spirituel qui lui disait justement de prêcher en anglais. Et Prabhupada, Il l'a fait. C'est ce qu'il a fait. C'est ça qui nous permet justement d'avoir connu la conscience de Krishna jusqu'à aujourd'hui et de pratiquer encore. C'est la grâce des maîtres spirituels réalisés, la succession disciplique qui fait toute la différence dans notre vie et la vie des autres dévots dans la lignée disciplique qui remonte jusqu'à Krishna. Alors, faut se sentir vraiment appréciateur des dévots et respectueux envers les dévots. Si on apprécie les dévots, ça ne sera pas un problème d'être respectueux envers les dévots. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?
J'aimerais rajouter juste quelque chose avec Prabhupada. Avant Prabhupada, je voyais la vie en blanc et noir. Puis Prabhupada a mis de la couleur dans la vie.
Ah, c'est bien. Oui. Et quelle est la couleur? Là, je badine un peu, là. Quelle est la couleur la plus importante que Prabhupada a ajoutée dans notre vie?
Jaune.
Jaune pour?
Ben, Krishna était bien jaune souvent.
OK. Et la carnation de Krishna est?
Noire.
Chaitanya.
Shyama. Shyama. Comme on dit, Shyama Sundar. Shyama, chez le Bhaktisiddhanta, explique que c'est une couleur noire bleutée qu'on ne peut pas retrouver dans le monde matériel. Seulement dans le monde spirituel, c'est la couleur de la peau de Krishna, du corps de Krishna, Shyama. Mais il y a une autre couleur qu'on retrouve pratiquement partout dans le monde matériel. Et comme je te regarde, Madhavananda, je vois le background, c'est vert.
Ouais.
Du vert, il y en a partout. Alors, si on n'est pas dans le désert, là, c'est la couleur de la végétation.
Mm-hmm.
Alors, si le Prabhupada nous a donné, disons, indirectement, là, on parle au sens figuré. Si le Prabhupada nous a donné la semence de la plante de la dévotion, qu'on peut, mettons, présumer que c'est de couleur verte. Alors, si on pense au vert, on peut penser à la plante de la dévotion que Krishna, pas Krishna, mais Srila Prabhupada, a planté dans notre cœur. Alors, comme Prabhupada dit, on a lu ça précédemment, lors de l'initiation d'un disciple, le maître spirituel plante la semence de la plante dévotionnelle. Et après l'initiation, avant, mais après, c'est au disciple d'arroser cette plante sous la forme de l'écoute et du chant des gloires de Krishna. Shravanam Kirtanam. Et se souvenir de Krishna. C'est au disciple de faire ça. Alors, la plante va pousser. Elle va grandir. Éventuellement, pousser, transpercer l'écorce du monde, de l'univers matériel et aller se réfugier au pied parallélotus de Krishna. Goloka Vrindavan. Cette plante-là. Et on continue de la nourrir et puis écouter au sujet de Krishna continuellement. Voilà. Questions, commentaires? Alors, je trouve que ce cours-là, le cours actuel a passé vraiment vite.
Et juste une petite question par rapport au orange.
Oui.
Parce que tous les gourous sont habillés en orange, tous les
pas, pas nécessairement.
D'accord.
Le orange ou safran, on appelle oui, safran. Alors, ça, c'est bon pour les brahmachari et les sannyasis ou les vanaprastha. Mais les grihastha, ceux qui sont mariés, c'est soit en blanc, soit en jaune.
Okay.
C'est une ou l'autre de ces couleurs-là.
Mm-hmm.
Et pour être un maître spirituel, ce n'est pas nécessaire que quelqu'un soit un brahmachari ou un sannyasi. Il peut y avoir des maîtres spirituels qui sont mariés, qui sont grihastha. Et il y en a ou il y en avait dans le mouvement. Et c'est des possibilités. Mais en général, plus souvent qu'autrement, les maîtres spirituels vont être des sannyasis, des swamis,
mm-hmm.
Qu'on appelle. Alors maintenant, une petite question. Si vous pouvez m'expliquer, je connais la réponse d'avance, là. Des fois, un titre de maître spirituel, il y en a un qui va être appelé Swami et un autre qui va être appelé Goswami. C'est quoi la différence? Comment se fait-il qu'un maître spirituel, dans son nom, dans son titre, est appelé Swami?
Oui,
et un autre Goswami.
Il y a les cinq Goswami qui sont détachés, coupés complètement du monde matériel, qui n'ont pas d'attachement, aucun désir du monde matériel, les Goswami.
Oui, les Goswami, les disciples du Seigneur Chaitanya. Alors, la réponse, c'est quand il est appelé Swami, en général, on parle en général, là. Swami, c'est parce qu'il n'était pas marié avant.
Mmh.
Et Goswami, parce qu'il a déjà été marié.
Okay.
Alors, il a pris l'ordre du renoncement. Et s'il a été marié avant, Goswami. Et s'il n'était pas marié, Swami. En général. Mais, vous avez l'exemple de, disons, contradictoire. Dans le cas de Srila Prabhupada, on dit Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada.
Alors qu'il était
marié, Prabhupada, avant. Alors, je peux pas expliquer techniquement pourquoi ils ont pas appelé Prabhupada Goswami, mais en général, c'est pour ça que je dis en général. Alors, s'il était disons, marié avant, c'est Goswami, et Swami, s'il était célibataire, jamais marié avant. Ça, c'est la règle générale. Alors, je sais, admettons, il y avait un dévot qui était Goswami dans le mouvement. Si ma mémoire est bonne, Tamal Krishna Goswami. Alors là, tu savais tout de suite. Lui, il était marié avant. Alors, Goswami. Il est sannyasi, mais appelé Goswami. Il était marié avant. Voilà. OK, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Merci beaucoup, Brahmi.
Hare Krishna, ça nous fait plaisir.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Alors, mercredi prochain.
Mercredi.
Oui. Merci beaucoup de venir au cours. C'est très apprécié. Hare Krishna.
Merci de votre temps.
Merci pour cet enseignement aussi qui est très apprécié.
Oui, moi de même. J'apprécie beaucoup l'opportunité qui m'est donnée. Parce qu'il n'y avait pas personne participé, c'est pas pareil du tout, là. Alors, on se comble mutuellement.
Hare Krishna, Hare Bol.
Hare Bol, Hare Krishna.
Hare Bol.
Hare Krishna, Jai.
Jai.
Hare Bol, Jai. Hare Bol. Voilà. Comment ça marche? Mute on, OK. Bon. Ça marche. Ah, ok, c'est comme ça.